Mais d'abord, on parle de surqualification en matière d'emploi. Dans la presse ce matin, on peut lire l'histoire de Imran Rana. Lui, il a un baccalauréat et une maîtrise en administration des affaires, mais pour gagner sa vie, il travaille à la réception d'un hôtel du centre-ville de Montréal. Lui, c'est un résident non permanent, mais on sait que c'est le cas pour plusieurs d'entre eux. Ils ont de la difficulté à trouver un emploi dans leur domaine d'études. Pour toutes sortes de raisons, on en entend souvent parler. Mais je sais aussi que c'est le cas pour toutes catégories confondues. Donc, les citoyens, aussi les immigrants, plusieurs personnes sont surqualifiées. Est-ce que vous, c'est votre cas? Et si oui, est-ce que ça a des effets sur votre motivation au travail? J'en discute avec Guillaume Desnoyers, qui est conseiller en ressources humaines agréé. Bonjour, Monsieur Desnoyers.
Bonjour, Marie-Ève. Comment allez-vous?
Très bien, merci. Est-ce que c'est le cas de plusieurs personnes qui sont justement surqualifiées pour leur travail, qu'ils ont des diplômes d'études qui sont beaucoup trop élevés pour le travail qu'ils ont à accomplir?
Bien, c'est effectivement une situation qu'on voit depuis de nombreuses années. Bien, personnellement, je croyais que c'est une situation qui tendait à se résorber avec la pénurie d'emploi actuellement. Mais faut croire qu'il existe encore. Puis je pense que la situation des immigrants, des nouveaux arrivants, est toujours préoccupante à ce niveau-là, d'après ce que je vois là ce matin.
Puis est-ce que, parce que là, on en parle beaucoup en lien avec les immigrants, ça, ce sont des histoires qu'on entend souvent. Un médecin qui pratiquait dans son pays, qui aujourd'hui est chauffeur de taxi, mais est-ce qu'on l'observe aussi chez les gens qui sont justement citoyens, qui ont toujours vécu au Québec, au Canada, ils occupent des emplois, puis théoriquement, ils devraient être ailleurs?
Oui, ben c'est quelque chose qu'on va remarquer dans un certain pourcentage de la population. D'ailleurs, quand on voit les intentions de changer d'emploi année après année, les chiffres sont toujours très 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 élevés. Par contre, c'est pas quelque chose qui va se matérialiser. C'est-à-dire qu'on peut poser des questions à des gens puis se rendre compte que 50 à 60 % d'entre eux veulent changer d'emploi dans la prochaine année. Puis on remarque que les taux de roulement des entreprises là, sont entre 15 et 25 %. Donc la moitié des gens vont le faire. Mais oui, il y a des situations entre autres qu'on peut appeler les situations où les gens ont des menottes dorées. Et là, ben, ils sont un peu partis du problème eux-mêmes. Là.
C'est quoi ça, le phénomène des menottes dorées?
Ben, en fait, vous l'avez sûrement déjà constaté, dans certains types d'organisations, il y a des gens qui ont de très, très bonnes conditions. Okay, ça peut être des conditions salariales, ça peut être des conditions de voyagement, ça peut être des conditions liées à des avantages comme des régimes de retraite qui font en sorte que les gens, ils s'ennuient au travail. Par contre, ils regardent leurs conditions puis ils se disent, j'aurais pas mieux ailleurs ou je risque même d'avoir pire. Et ils prennent la décision eux-mêmes de rester en fonction des conditions. Donc, on va dire qu'ils ont à ce moment-là des menottes dorées, c'est-à-dire qu'ils sont un peu pris dans leur poste, même si ils le font à un certain risque là, de désintéressement assez avancé dans certains cas.
Mais moi, j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai avec la nouvelle génération qui ose beaucoup plus se promener, prendre des risques.
Tout à fait. On le voit beaucoup. Je pense que effectivement, avec une certaine tranche de la population, parce que on s'ennuie, on quitte rapidement. Je pense que ça explique un phénomène de job hopping à un moment donné qu'on peut constater chez les jeunes. Mais à différentes étapes de carrière, il y a différents types de problèmes. On peut penser qu'en début de carrière, les jeunes se retrouvent, exemple, dans un emploi où ils sont, où ils se sentent sous-utilisés, mais dans le fond, ils sont en apprentissage. Et ça peut être créer une certaine frustration. Et quand le marché est porteur d'opportunités, bien, ça devient facile de se dire, bien, je m'ennuie ici, je change d'emploi. Mais ça, c'est effectivement une situation qu'on peut attribuer à une tranche d'âge là, de 18 à 35 ans, à peu près.
Sinon, si on vient à la surqualification, là, quels sont les domaines d'études qui sont les plus touchés?
Ben écoutez, ça peut toucher tous les domaines d'études. Là. Vous le disiez vous-même là. On peut penser exemple au domaine de l'ingénierie ou en début de carrière, les gens sont appelés à faire peut-être des postes plus analytiques de conception ou des tâches de gestion. Mais on peut retrouver ça dans tous les domaines d'emploi.
OK, parce que moi, j'aurais pensé, justement, ben là, quand on parle des immigrants, beaucoup, justement, la médecine, des professions où il y a des éléments qui sont différents ici à tenir compte, donc ce qui fait en sorte qu'ils ne travaillent pas.
Ouais, ben c'est certain que dans différents types de professions. Il y a encore des barrières à l'entrée. Je pense, entre autres, à un manque de flexibilité de certains ordres professionnels qui peuvent faire en sorte que se requalifier dans un domaine, ça peut être excessivement compliqué. Ça, c'est certainement une situation que le législateur a tenté d'améliorer, mais il y a encore des réticences, je pense, de ce côté-là.
Vous avez parlé des effets que ça peut avoir sur le psychologique chez les gens, justement, qui sont surqualifiés, qui peuvent s'ennuyer au travail. Moi, j'ai vu un concept passer, ça s'appelle le bore-out ou l'ennui au travail. Est-ce que vous pouvez l'expliquer?
Ben, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on va associer le bore-out au burn-out, c'est-à-dire que le burn-out, qui est dans le fond un espèce de surmenage, une dépression situationnelle, alors que le bore-out, c'est un peu le même effet, hein, c'est une perte d'intérêt qui peut généraliser, là, je suis pas médecin spécialiste, mais qui souvent va être associé au fait que les gens s'ennuient tellement dans leur poste que ça vient à déteindre sur l'ensemble, sur les autres aspects de leur vie, là. Donc, c'est un phénomène qu'on voit depuis une vingtaine d'années globalement.
Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur le travailleur?
Ben, écoutez, comme je vous dis, là, je suis pas médecin, mais ça va être des conséquences qui sont très très proches là, d'une dépression ou d'un burn-out qu'on appelait traditionnellement. Mais la source est vraiment à ce moment-là le désintéressement, le manque de stimulation, l'ennui au travail lui-même.
Guillaume Desnoyers, conseiller en ressources humaines, je vous garde avec moi. Je veux juste redonner les numéros de téléphone pour nous joindre parce qu'on vous pose la question. Est-ce que vous êtes surqualifié pour votre travail? Est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que vous vivez ça? Comment ça se passe pour vous? Donc, les numéros à Montréal, 514-790-9850. À l'extérieur de Montréal, le 1-866-790-9850. Via le texto aussi au 98985. Là, je vois un texto qui vient de rentrer. Quelqu'un qui dit « Je suis musicothérapeute française, mais mon diplôme n'est pas reconnu par la Fédération canadienne, donc je ne peux pas pratiquer. » C'est Charlène qui nous écrit ça. Donc, il y a aussi quelqu'un qui nous dit « Je pense que certains employeurs refusent des candidats surqualifiés pour ne pas leur dire non. » Ah, ça, c'est intéressant. Il dit, exemple, les immigrants qualifiés, quand ils viennent de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique, on ne veut pas faire de discrimination et c'est plus facile de dire qu'ils sont surqualifiés au lieu de rentrer dans les dédales administratifs. Est-ce que ça arrive, M. Desnoyers? C'est une bonne excuse. Ah, vous êtes surqualifié, je vous prends pas.
Ben, écoutez, il y a certainement encore au Québec des problèmes d'inclusion dans le milieu du travail. Effectivement, il peut y avoir des organisations qui ont un malaise avec des gens qui n'ont peut-être pas une somme jugée pertinente là, d'expérience dans le contexte de travail au Québec. On peut se demander effectivement c'est quoi le fondement de ça, parce que dans certains cas, on peut penser là, qu'il y a dans des postes, exemple, en informatique, les langages informatiques sont un peu les mêmes partout à travers la planète. Dans d'autres types de fonctions, ça peut être un peu plus pertinent, mais oui, c'est possible que ça soit quelque chose qui soit utilisé. Je vous dirais aussi là, que traditionnellement, l'employeur, vis-à-vis des gens qui lui semblent surqualifiés, a souvent une crainte de dire, ben je vais embaucher cette personne-là, elle va prendre un poste en attendant, mais aussitôt qu'elle va se trouver un poste à la hauteur de ses qualifications, elle va me quitter. Fait qu'il y a un peu de ça aussi là, dans la croyance populaire. Puis effectivement, on peut penser là, que chaque individu tend à utiliser au maximum ses compétences. Puis ça peut faire en sorte que quelqu'un qui est sous-qualifié dans un poste ben a peut-être plus de chances de quitter l'employeur.
Est-ce que ça peut arriver que quelqu'un cache un diplôme sur son CV?
C'est possible. Je l'ai déjà entendu celle-là pour l'avoir. Je ne l'ai pas moi-même constaté, mais c'est sûr qu'il y a des gens là, qui peuvent penser qu'avoir deux PhD et chercher un poste d'analyste, c'est peut-être pas compatible.
Mais il me semble que ça a du sens là, à la lumière de ce que vous venez d'expliquer.
Ben ça va dépendre du niveau du poste là, mais oui c'est fort possible, mais effectivement les gens pourraient vouloir l'omettre pour ne pas avoir à s'expliquer en long et en large dans une entrevue au lieu de parler du poste en question puis de leur capacité à le remplir adéquatement.
Il y a d'autres textos, j'en lis quelques-uns. Nancy nous écrit: mon mari est surqualifié à son travail, mais il est tellement bon dans son poste, il n'y a pas de relève que le boss le laisse là. Ça c'est intéressant. Et dans une entreprise, il y aurait moyen d'avancer en échelon, d'avoir plus de responsabilités, mais comme il n'y a pas de relève pour te remplacer, que tu es bon, je te laisse là au lieu de te faire avancer. C'est pas super motivant, ça.
Ben effectivement, je veux dire, on le voit souvent. Moi, je le dis tout le temps. Il n'y a rien de pire que d'être bon dans quelque chose qu'on n'aime pas faire. Là. C'est probablement son cas. Faut voir que, par contre, souvent les gens vont y trouver beaucoup beaucoup de reconnaissance de la part de leur milieu. Et parfois, ont aussi peut-être des menottes dorées, comme on disait tout à l'heure, donc d'excellentes conditions qui font en sorte que leur motivation à changer d'emploi ou le risque perçu à changer d'emploi est peut-être plus grand que le malaise qu'ils vivent dans leur poste.
Guillaume Desnoyers, conseiller en ressources humaines agréé, je vous invite à rester avec moi si vous êtes disponible pour les 10 prochaines minutes parce que je vais continuer à lire des textos, prendre des appels. Vous êtes disponible?
Avec grand plaisir, Marie-Ève.
Parfait. Donc, je rappelle la question. Êtes-vous surqualifié pour votre travail? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, sinon dans le passé? Comment avez-vous vécu ça? Si oui, est-ce que ça a des effets sur votre motivation au travail? Les numéros de téléphone pour nous joindre à Montréal, 514-790-9850. À l'extérieur de Montréal, le 1-866-790-9850. Et par texto, le 98-985.